Chapitre 7. Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société? L'essentiel. L'école est une institution qui a pour but de transmettre des savoirs et des compétences aux élèves afin qu'ils puissent se les approprier et prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Démocratisation ou massification de l'enseignement. L'école transmet des savoirs en dispensant des cours dans de nombreuses disciplines aux élèves. Parce qu'elle constitue un pilier de la République, l'école a aussi pour but de développer l'esprit critique des élèves afin qu'ils deviennent des citoyens autonomes. En tant qu'institution démocratique, elle vise et promeut le principe d'égalité des chances. Chaque élève doit disposer des mêmes chances de réussir, quel que soit son milieu social d'origine. Dans ce but de démocratisation, l'école connaît des mutations importantes à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Le taux de scolarisation augmente de façon régulière. L'extension de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans entre dans la loi en 1959, puis en 1975, avec la loi Habit, les différentes filières destinées aux élèves du collège sont supprimées pour laisser place au collège unique. Les collégiens reçoivent tous le même enseignement général et peuvent ensuite s'orienter vers des filières professionnelles, technologiques ou générales du lycée. En 1985, et fixer l'objectif de 80% de bacheliers au sein d'une classe d'âge. L'ouverture du secondaire et du supérieur à tous les milieux sociaux a permis de démocratiser l'école en ce sens qu'elle est devenue accessible à tous. Chacun dispose alors des mêmes ressources pour réussir. Pourtant, le système de sélection par filière reproduit en partie, plus tardivement qu'auparavant, les hiérarchies sociales. Si effectivement 80% d'une classe d'âge obtient désormais le baccalauréat, la proportion d'enfants d'ouvriers est plus élevée parmi les bacheliers de la voie professionnelle que générale. Le terme de massification semble alors plus pertinent pour désigner l'augmentation des effectifs à l'école sans que cela ne s'accompagne d'une réduction significative des écarts de réussite scolaire entre les élèves issus de différents milieux sociaux. La multiplicité des facteurs d'inégalité dans la réussite scolaire. Il existe un lien statistique entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Le principe d'égalité des chances semble donc être malmené. Plusieurs analyses apportent un éclairage permettant de comprendre ce lien de causalité. La familiarité que les familles dont le capital culturel est le plus élevé entretiennent avec les différents usages du langage, de la lecture et plus généralement avec la culture, théâtre, art, cinéma, littérature, valorisée par l'institution scolaire, offre aux enfants des prérequis qui facilitent leur réussite scolaire, ce qui constitue un avantage par rapport aux enfants issus de milieux populaires. Les inégalités scolaires s'analysent aussi à l'aune des choix opérés lors du processus d'orientation. En effet, les familles et les élèves effectuent un calcul rationnel qui consiste à comparer les coûts et les avantages d'une poursuite d'études. Plus le niveau social de la famille est élevé, plus le coût de poursuite d'études est faible par rapport aux avantages escomptés. Les inégalités territoriales et les stratégies d'évitement de la carte scolaire par certaines familles participe enfin à réduire la mixité sociale dans certaines écoles, ce qui a un impact sur l'accumulation des difficultés pour les élèves les plus défavorisés. Les statistiques révèlent que les enfants d'ouvriers peuvent réussir scolairement, même si la probabilité est moins élevée que pour les enfants de cadre. L'investissement des familles de milieux populaires dans le suivi de la scolarité des enfants est en effet un facteur de réussite. La socialisation selon le genre transmet, plus ou moins consciemment, des manières de se comporter différentes aux garçons et aux filles. Pourtant, l'école attend des élèves un comportement scolaire, c'est-à-dire sérieux et obéissant. Les comportements dits féminins, patience, obéissance, sont donc davantage en adéquation avec les normes scolaires que les comportements dits masculins, énergie, assurance. Cela participe à expliquer les écarts de performance scolaire entre les filles et les garçons. Pourtant, si les filles réussissent mieux que les garçons, elles sont aussi globalement plus enclines à sous-évaluer leurs compétences, tandis que les garçons affichent plus facilement de l'ambition. On retrouve alors une part plus importante de garçons dans les filières scientifiques et de filles dans les filières sociales et littéraires. Cela ne pourrait être qu'une différence si ces diplômes n'entraînaient pas des différences de rémunération sur le marché du travail.